18h passé de 15 minutes au studio Kalangou. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure de votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangou. Une émission qui vous éclaire sur tous les sujets et qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Au total, 34 radios partenaires diffusent les programmes du studio Kalangou en direct dans les 8 régions du Niger ainsi que dans une vingtaine de départements. Et ce, du lundi au vendredi à partir de 17h jusqu'à 19h et les week-ends de 17h15 à 18h15. Le forum de ce soir a pour thème principal le passage en grade des enseignants-chercheurs et des chercheurs à travers l'évaluation de leurs compétences pédagogiques et scientifiques par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Pourquoi le CAMES et quelles sont les principales missions du CAMES? Quels sont les différents grades décernés par le CAMES? Comment passer d'un grade à un autre? Quelles sont les difficultés qui entourent le processus d'attribution? Ce sont là, entre autres questions auxquelles nous espérons trouver des réponses avec nos invités, professeur Ali Douma, enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey et point focal du CAMES au Niger. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Et professeur Moukaila Abdou Serki, enseignant-chercheur aussi à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Il fait partie des candidats admis au grade de professeur titulaire lors de l'évaluation du CAMES à Niamey en juillet dernier. Bonsoir, professeur.
Bonsoir, monsieur.
Merci à vous d'avoir honoré notre invitation à la présentation de cette émission à Alassane Kouzi Mahamadou. Bienvenue à tous, chers auditeurs. Ce soir, nous parlons de l'évaluation des compétences pédagogiques et scientifiques des enseignants-chercheurs et des chercheurs par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Créé en 1968, le CAMES compte 19 pays membres. Il a pour mission, entre autres, d'instaurer une coopération culturelle et scientifique entre les États membres, de collecter et diffuser des documents universitaires ou des recherches, de coordonner les systèmes d'enseignement supérieur et de la recherche afin d'harmoniser les programmes et les niveaux de recrutement dans les différents établissements des pays membres. Pour ce faire, les comités consultatifs interafricains du CAMES se réunissent en session chaque année. Lors de ces sessions, les enseignants et chercheurs font l'objet d'une évaluation individuelle de leurs compétences scientifiques et aptitudes pédagogiques en vue de leur inscription sur les listes d'aptitudes aux différents grades de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette année, la 40e session des comités consultatifs interafricains s'est tenue à Niamey au mois de juillet dernier. Alors, je m'en vais tout de suite commencer avec vous, professeur Ali Douma. Je le disais, point focal, vous êtes le point focal du CAMES au Niger. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'autre sur la principale existence même du CAMES?
Je veux parler au-delà de ce que vous avez dit par rapport aux missions du CAMES. Donc, c'est la coordination, c'est l'instance de pilotage de l'enseignement supérieur au niveau des pays qui se trouvent à son sein.
19, c'est ça?
19 pays, mais ce n'est pas tous les pays qui participent. 19 pays, plusieurs programmes. Il y a des pays qui participent à certains programmes, il y a d'autres qui ne participent pas à certains programmes. Ainsi de suite.
Bien. Nous allons venir à vous, professeur Moukaila Abdou Serki, professeur titulaire désormais en philosophie au niveau de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Quelle est pour vous l'importance du CAMES? Pourquoi le CAMES?
Pour moi, le CAMES est une structure extrêmement importante. Et que si le CAMES n'avait pas existé, il aurait vraiment fallu créer le CAMES. Il serait important de dire que l'idée de créer le CAMES était née en, comme vous le dites, en janvier 1968, lors d'un sommet de l'OCAM, l'Organisation commune africaine et malgache, qui était à l'époque présidée par le président Jory Amani, qui avait fait tellement de bonnes choses à la tête de l'organisation que ses pairs l'avaient élu pour 3 années au moins à la tête de l'OCAM. Et c'est au cours d'un sommet de l'OCAM que le CAMES avait été créé pour fédérer vraiment les efforts des États membres en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Je pense que la session qui vient de se tenir à Niamey s'inscrit précisément dans ce cadre, notamment à travers le programme des comités consultatifs interafricains, d'évaluer les compétences des anciens chercheurs et des chercheurs qui œuvrent dans les différents États membres. Et je pense que c'est une structure extrêmement crédible et qui nécessite le soutien de tous. Et c'est pourquoi je tiens à souligner vraiment cette initiative que vous avez prise. J'ose espérer que d'autres structures, d'autres organes de médias vont faire des émissions pour,
celle d'en parler,
pour mieux faire connaître le CAMES, parce que on ne le connaît pas assez.
Bien. Professeur Ali Douma, il me semble que les grades agréés par le CAMES concernent les enseignants-chercheurs et les chercheurs. Quelle différence il faut entendre par là entre ces deux groupes d'universitaires?
Comme le nom l'indique, les enseignants-chercheurs, ils font l'enseignement et ils font la recherche. Par contre, les chercheurs, normalement, ils ne font que la recherche. Même si au niveau de l'université Abdou Moumouni, compte tenu de certains avantages, disons, accordés à des chercheurs, la loi exige aux chercheurs de donner au moins la moitié de leur charge en cours. Mais sinon, quand vous prenez des certains pays, et par exemple, même ici, on est en train de mettre en place le Centre national de la recherche scientifique. Par exemple, les chercheurs qui vont évoluer au niveau du Centre national de la recherche scientifique, s'ils ne sont pas régis par le statut des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire que logiquement, eux, c'est la recherche. Et c'est pour ça qu'au
niveau... Pas d'enseignement.
C'est
la recherche.
Et c'est pour ça qu'au niveau de l'évaluation, par exemple, il y a un point très important au niveau de l'évaluation, qui est les activités pédagogiques et de recherche, ou bien les activités institutionnelles et de recherche. Les enseignants-chercheurs, on les évalue par rapport aux activités pédagogiques et de recherche, parce qu'ils font l'enseignement et ils font la recherche. Par contre, les chercheurs sont évalués par rapport aux activités institutionnelles. Qu'est-ce qu'ils font dans leur institution et par rapport également aux activités de recherche. Donc tout ça montre quand même qu'au fait, il y a plus de recherche au niveau des chercheurs, comme le nom l'indique, alors que les enseignants-chercheurs consacrent une partie de leur temps à l'enseignement et une partie de leur temps à la recherche.
Mais est-ce qu'il y a des exceptions où des chercheurs puissent être amenés à enseigner?
Non, ça arrive. C'est-à-dire qu'un chercheur qui est spécialisé dans un domaine, si on n'a pas de compétences, le plus souvent on les associe à l'enseignement, mais ce n'est pas leur mission première. Au fait, la mission première des chercheurs, c'est vraiment faire la recherche. Et le travail dans les instituts de recherche. Et la mission est de l'enseignant-chercheur. Eux, les anciens chercheurs ont une mission d'enseignement et de recherche.
Les deux.
Bien.
Professeur Munkaila Abdo, vous avez quelque chose à ajouter?
Non, je pense qu'il a dit les choses telles qu'elles doivent être dites. Évidemment, dans notre pays, la spécificité, comme il a dit, c'est que jusqu'en 2012, les chercheurs n'étaient pas formellement obligés de par la loi de faire de l'enseignement. Nous avons à l'Université Abdou Moune de Niamey, l'Institut de recherche en sciences humaines, l'Institut des radioisotopes, l'Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques, où il y a des collègues qui sont des chercheurs. Donc jusqu'en 2012, ils n'étaient pas obligés de faire de l'enseignement. Mais à partir de 2012, le nouveau statut des enseignants, chercheurs et chercheurs des universités publiques du Niger dit clairement qu'ils ont l'obligation de faire 50% de la charge d'enseignement d'un enseignant-chercheur. Donc, ils sont obligés. Et nous sommes tous, je dirais, des enseignants-chercheurs à ce niveau. Mais, comme il a dit, au niveau de l'évaluation, puisque eux, ils ne sont pas obligés de faire 100% de la charge d'enseignement d'un enseignant-chercheur. Et ils ont donc plus de temps et il y a un certain nombre de critères spécifiques pour l'évaluation de leur dossier au CAMES, par exemple.
Bien. Et professeur Ali Douma, j'ai envie de savoir comment sont échelonnés les différents grades agréés par le CAMES dans les deux catégories.
Et donc, dans les deux catégories, ce qu'il faut savoir, et c'est ça l'intérêt pratiquement de nos échanges,
oui.
Parce que le plus souvent, les gens ne le savent pas.
Oui.
Lorsqu'on est recruté enseignant-chercheur à l'université, je veux commencer par les universités, parce que c'est les universités qui ont la vocation d'enseignement et de recherche.
Bien.
On est d'abord recruté assistant. Et au bout de
assistant.
Au bout de 2 ans d'ancienneté, et en fonction d'un certain nombre de critères, on dépose un dossier au CAMES pour accéder au grade de maître assistant. Et là également, au bout de 3 ans d'expérience dans la maîtrise d'assistanat, on peut espérer, disons, on peut déposer un dossier pour accéder au grade de maître de conférence. Et le maître de conférence aussi, après 3 ans d'expérience, peut accéder, si les conditions le permettent, au grade de professeur titulaire. Mmh. Là, c'est pour les anciens chercheurs.
Pour les enseignants chercheurs. Voilà.
Par contre, pour les chercheurs, quand ils sont recrutés dans un institut de recherche ou bien dans un centre de recherche, ils sont ce qu'on appelle des attachés de recherche. C'est l'équivalent de maître assistant pour les anciens chercheurs.
L'assistant, comme tu l'as dit tout à l'heure.
Oui, c'est l'équivalent d'assistant pour les anciens chercheurs, comme pour les anciens chercheurs. Et maintenant, les mêmes conditions d'ancienneté, ils peuvent passer chercheur de recherche, l'équivalent de maître assistant pour les anciens chercheurs, maître de recherche, l'équivalent de maître de conférence pour les anciens chercheurs, et directeur de recherche cette fois-ci, qui est l'équivalent de professeur titulaire pour les anciens chercheurs. Je vais juste préciser.
Oui.
Qu'en réalité, au niveau du CAMES, un directeur de recherche n'est pas un professeur. Parce que le titre professeur, en réalité, est dédié aux enseignants. Et donc, il est directeur de recherche, mais on l'appelle docteur. Docteur Intel, et il signe directeur de recherche. Ou bien docteur Intel, il signe maître de recherche. Et on voit couramment parmi les collègues qu'on appelle des professeurs Intel. C'est pour faire la différence entre vraiment le chercheur et l'enseignant-chercheur.
Et l'enseignant-chercheur. Alors, peut-être qu'on va rentrer un peu en détail. Quel est le rôle ou le champ d'action du détenteur de ces titres?
Quand on suit vraiment la logique, parce que l'enseignement supérieur quand même a une logique, l'assistant et le maître assistant, comme on le dit, un assistant, ça veut dire que tu assistes quelqu'un.
Oui.
Le maître assistant, ça veut dire que tu es devenu as, si je peux le permettre,
oui,
de l'assistant. Ça veut dire que tu es sous la coupe d'un enseignant de rang magistral. Et donc, logiquement, assistant, maître assistant, je dis bien logiquement, ils ne sont pas habilités à donner des cours maestraux. Ils sont habilités à faire les TD. Vraiment, c'est l'apprentissage. Vraiment, on les encadre vraiment à être des bons anciens chercheurs. On les encadre à être des bons chercheurs, etc. etc. Maintenant, à partir du maître de conférence, là, on est habilité à encadrer. Et donc, l'encadrement de thèse, c'est à partir des maîtres de conférence et des professeurs titulaires. Maintenant, je dis bien la logique. Compte tenu des problèmes de l'insuffisance en ressources humaines que nous avons, le plus souvent dans les universités africaines, ce n'est pas seulement au Niger, les assistants et les maîtres assistants sont appelés parfois à donner des cours maestraux. Et on le voit un peu partout.
Lieu et place de maître de conférence.
Oui, ouais, parce qu'en réalité, le nombre fait qu'on est obligé de leur confier.
De faire recours aux
assistants et aux maîtres assistants. Donc, ils font les cours, mais la logique voudrait que seuls les anciens de rang maestro, comme on dit, maîtres de conférence, professeurs titulaires, c'est eux seuls qui sont habilités normalement à faire les cours maestro. Maintenant, compte tenu des problèmes d'encadrement que nos universités connaissent, le CAMES a autorisé les maîtres assistants à encadrer les masters. Avant, les maîtres assistants n'étaient pas habilités à encadrer les masters. Mais vous avez suivi le débat qu'il y a eu, les étudiants qui font des marches parce qu'il y a un problème d'encadrement au niveau des masters. Donc, le CAMES les a habilités à encadrer des masters, mais sous la supervision d'un enseignant magistral. Le professeur titulaire et les maîtres de conférence. Et les maîtres de conférence. Le professeur titulaire, pratiquement, c'est le même. C'est un enseignant magistral. Donc, il encadre les thèses comme le maître de conférence encadre une thèse. Mais ça veut dire que lui, il est au sommet, il a sous sa coupe l'encadrement pratiquement de tous les autres.
De tous les autres.
Parce qu'il peut appuyer, par exemple, le maître de conférence qui n'est pas encore professeur titulaire, il peut l'appuyer dans l'encadrement de thèse, à l'orienter pour qu'il soit aussi professeur titulaire. Je vais juste préciser, dans les pays où, parce que nous, avec le système LMD, on n'a plus la maîtrise, parmi les diplômes ou bien les diplômes encadrés, le maître assistant est habilité à encadrer à lui seul une maîtrise, Bac plus 4.
Oui.
Ça, le CAMES lui accorde ça.
Lui permet de
le faire. Maintenant, au niveau des chercheurs, c'est pratiquement la même chose. C'est-à-dire l'attaché de recherche et les chercheurs de recherche, eux aussi, ils sont sous la coupe des maîtres de recherche et directeurs de recherche qui, eux, sont habilités à encadrer. Les autres ne sont pas habilités à encadrer.
Bien. Professeur Moukaila Abdou Serki, peut-être d'autres précisions?
Bon, je pense que le professeur Douma est bien aguerri. Il a dit les différents points. Je voudrais juste préciser qu'il y a des pays quand même où il y a une certaine hiérarchie qui est respectée. Je ne dirais pas qu'à l'université, c'est comme dans l'armée, où vous avez un maréchal, les généraux, un général,
oui,
etc.
Oui.
Mais il y a des pays, y compris dans la sous-région ouest-africaine, où cette hiérarchie est respectée. Où un professeur, il a vraiment sous sa responsabilité directe, c'est toute une équipe. Bon, chez nous, c'est peut-être dès le début hein, que les choses sont parties. Vous pouvez être professeur titulaire sans pratiquement avoir, sans avoir formellement
une équipe,
quelqu'un sous votre responsabilité, sauf si vous-même, hein, vous avez l'initiative de constituer une équipe en tant que telle. Normalement, les enseignants, les assistants, les maîtres assistants peuvent faire des cours magistraux, hein, peuvent dispenser des cours magistraux, mais sous la responsabilité
d'un maître de conférence
ou d'un professeur titulaire. Bon, mais ici chez nous, quand on recrute quelqu'un, pratiquement, je dirais qu'il est un peu laissé à son sort. Les choses ne sont pas organisées de façon à ce qu'il y ait une structure. Quand vous venez...
Est-ce que c'est parce qu'il y a toujours ce problème de nombre?
Ben, le nombre, je pense que c'est largement insuffisant de toute façon. Le nombre qu'on a. Moi, je vais vous donner juste un petit exemple. Bon, je suis, je ne sais pas si je peux avoir la prétention de dire que je suis un philosophe. En tout cas, je suis un enseignant de philosophie. L'année dernière, j'étais à une soutenance de thèse à Bouaké, à l'université Alassane Ouattara. Mon collègue qui est là-bas m'a dit qu'au département de philosophie de l'université de Bouaké, l'année dernière, ils étaient 85 enseignants-chercheurs. C'est-à-dire plus de l'effectif des enseignants-chercheurs de la faculté de lettres et sciences humaines de l'université de Niamey. Nous sommes 78 enseignants-chercheurs permanents à la faculté de lettres et sciences humaines. Là-bas, rien qu'en philo.
Rien qu'en philosophie,
et c'est, c'est l'université de la deuxième ville du pays. Ils sont 85. Donc là-bas, c'est vraiment hiérarchisé. Et chaque année, on recrute. Là-bas, c'est vraiment des équipes bien hiérarchisées hein, qui sont là hein, parce que on n'a pas la même histoire. Hein. Je pense que les choses peuvent se comprendre, mais il y a effectivement ce problème d'insuffisance de ressources humaines. Je pense qu'il y a des efforts réels hein, qui doivent être faits pour que, si on ne fait pas ces efforts de toute façon, nous allons revivre tous les problèmes que nous avons vécus.
Alors, professeur, quels sont les avantages quand même liés aux différents grades que nous avons vus ensemble?
Bon, je pense que nous avons, il faut peut-être rappeler que l'université de Niamey, qui était, je dirais, au CAMES, nous étions sortis quand même du CAMES. Je pense que, professeur Douma, c'est un... Non, le retour, nous sommes retournés à partir de fin 2003, nous avons dissous le comité consultatif universitaire qui était chargé d'octroyer les grades, d'examiner les dossiers d'avancement des anciens chercheurs ici.
C'est en 2003 qu'il y avait eu le retour ou
le retour, nous avions quitté...
Après combien d'années de...
Après 23 ans d'absence.
Ah oui.
Nous avons quitté, on était dedans, on a quitté. Bon, finalement, moi, je vais vous dire un peu pourquoi on était revenu. Bon, je ne peux pas vous dire pourquoi on a quitté. Je peux vous dire que j'étais là quand le combat était engagé pour le retour.
Pourquoi on était revenu alors? Puisque vous n'allez pas...
Pourquoi
nous étions revenus?
Des voix plus autorisées que la mienne peuvent vous dire pourquoi on avait quitté. Donc, il y avait, je pense qu'il y a un vrai, il y avait un vrai conservatisme. Je ne suis pas en train de faire le parricide. Je ne suis pas en train de m'en prendre aux anciens. Parmi les anciens, il y en a même qui ont été au CAMES. Par la suite, leurs grades ont été reconnus comme tels par le CAMES. Il y en a... Mais il y a eu un comité qui était chargé d'examiner les critères de promotion. Et à l'époque, c'est un comité interne. À l'époque, le comité avait produit un texte dans lequel les critères d'avancement internes à l'université de Niamey au niveau du comité consultatif interuniversitaire, était plus dur que ceux du CAMES. À l'époque, un certain nombre de personnes, bon, peut-être des jeunes, je dirais, trop fougueux, avaient considéré que c'était une façon pour des personnes qui étaient déjà arrivées au sommet, pour certaines, je précise,
de
c'était une minorité,
rejoint.
De bloquer. Donc, les gens ont dit, finalement, c'est pas la peine, puisque c'est plus
il
dur.
Vaut mieux retourner.
Là, on retourne au CAMES, au moins une structure beaucoup plus large. Donc, c'est comme ça une lutte a été engagée et qui a abouti en décembre 2003. Moi, j'étais membre du conseil d'université à l'époque. à la dissolution de notre comité interne. Carrément, on a, y a des pays qui ont les deux systèmes encore, hein. Mais nous, on a dit carrément, on dissout le comité consultatif
et on s'est fait exclusivement
et on retourne au CAMES. Yeah. Et depuis, c'est quand même extraordinaire au fil des années les résultats. Donc ça prouve combien nos collègues ne sont pas moins performants que les autres.
Alors c'était une erreur pour le Niger de s'être absenté pendant
ça, 23 ans. Je pense qu'il y a eu une décision même politique à l'époque, c'est vrai qu'avec des universitaires, hein, et notamment le ministère de l'enseignement supérieur de l'époque. Et j'imagine que si le ministère de l'enseignement supérieur et le recteur avaient décidé de claquer la porte du CAMES, je pense qu'il y avait une raison, mais je n'ose pas penser que cette décision a été prise sans l'accord du chef de l'État de l'époque.
Bien. Peut-être que vous voulez juste ajouter quelque chose avant qu'on aborde d'autres points.
Non, pas...
Bien, dans ce cas, nous entamons la deuxième partie de cette émission concernant la procédure et les conditions même de passage en grade. Professeur, quelles sont les conditions à remplir pour prétendre aux différents grades?
Bon, les conditions varient. Parce que rappelons que vous avez parlé tout de suite des CCI, les comités consultatifs intra-africains,
oui.
Pratiquement qui sont les CCI, c'est le programme d'évaluation des anciens chercheurs et des chercheurs.
Du CAMES.
Mmh. Maintenant, ce CCI, disons, ces CCI sont subdivisés en CTS, selon les champs disciplinaires.
Et c'est quoi CTS?
CTS, c'est comité technique spécialisé.
Mmh.
Donc, du coup, vous avez LSH, dont relève le professeur Saki, lettres et sciences humaines. C'était sciences naturelles et agronomie, donc il regroupe tout ce qui est biologie, géologie, agronomie. C'était SJP, sciences juridiques et politiques. C'était SEG, sciences économiques et gestion. C'était médecine, pharmacie, odontostomatologie, donc tout ce qui est production animale, médecine vétérinaire. C'était STAPS, qui n'existe pas chez nous. C'est le comité et technique qui s'occupe des applications pratiques et sportives. C'est l'éducation physique et sportive.
Donc, en gros, ça, c'est la composition des CCI.
Au fait, les CCI sont subdivisés en CTS en fonction des champs disciplinaires.
Mmh.
Et les critères dépendent des CTS. Mais de manière générale, pour accéder à un grade, il y a un dossier. Vraiment, c'est certainement que le professeur Saki va... Parce que lui, il vient de... c'est un candidat tout frais.
Oui.
Mais c'est harassant. Hein. C'est harassant. C'est un dossier vraiment costaud. Et donc, ce dossier commence par ce qu'on appelle la notice individuelle. La notice individuelle qui retrace un peu l'historique du candidat, un peu le CV, les revues dans lesquelles le candidat a publié, etc. etc. Après, vous avez le curriculum vitae. Etc. Bon, en tout cas, c'est à peu près...
Ça, c'est le dossier à composer.
C'est une vingtaine de dossiers à composer.
Oui, allez.
Mais les critères les plus intéressants pour les anciens chercheurs et les chercheurs, c'est surtout les publications.
Les publications
scientifiques.
Scientifique.
Les publications scientifiques et l'ancienneté. Et plus maintenant, l'encadrement. Maintenant, sinon, les autres pièces pratiquement sont valables pour tous les autres. Maintenant, quand on prend l'ancienneté, je disais tout de suite que quand un ancien chercheur ou bien un chercheur est recruté, il ne peut pas se présenter au CAMES sans avoir 2 ans d'ancienneté. Maintenant, avec ces 2 ans d'ancienneté, il faut maintenant valoir un certain nombre de publications. Le nombre de publications varie. En sciences naturelles et agronomie, dont je relève, c'est 2 publications. C'est-à-dire que c'est 2 publications aussi.
Oui,
c'est deux publications.
Non, c'est nous, c'est 3.
C'est 3 publications.
Pour être maître assistant.
Voilà.
Depuis
donc,
2017.
Voilà. Donc, ça dépend. C'est le nombre de publications, c'est 2-3 publications. Plus maintenant, toutes les informations concernant le candidat, la thèse, les activités pédagogiques et de recherche, etc., etc. Et là, vous les déposez au niveau donc, du CAMES. Les dossiers sont déposés au siège du CAMES. Et le CAMES les ventile à des experts externes, des évaluateurs externes. C'est lui qui évalue ton dossier là, tu ne le connais pas. Par exemple, un dossier du Niger peut se retrouver à Brazzaville, peut se retrouver à Libreville en Centrafrique. Et donc, cet évaluateur externe, il fait son rapport et il envoie le rapport au CAMES. Quand les CCI vont se réunir, les rapports vont arriver et tous les dossiers vont converger vers le lieu de tenue des CCI. C'est ce qui s'est passé la dernière fois à Niamey. Maintenant, pendant les CCI là, qui sont déroulés à Niamey, les dossiers vont être réévalués une deuxième fois. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une contre-évaluation. Et maintenant, c'est lorsque les deux avis convergent que le candidat est inscrit. Dans le cas contraire, on essaie de voir entre les deux avis qui a tort, qui a raison. Et maintenant, on tranche. Là, c'est pour maître assistant. Pour, après, maintenant, le candidat qui, celui qui est maître assistant, il faut valoir 3 ans d'ancienneté dans le grade de maître assistant. 3 ans effectifs.
Effectifs.
Dans le grade de maître assistant. Et là, on peut déposer un dossier pour passer maître de conférence ou bien maître de recherche.
Et même cette fois-ci aussi, il faut le nombre de publications.
C'est les mêmes pièces. Et là aussi, le nombre de publications. Et ce qu'il faut surtout ajouter, c'est que lorsqu'on passe maître assistant ou bien chef de recherche, lorsque vous présentez 1000 publications, une fois que vous passez maître assistant ou bien maître de, chargé de recherche, le compteur est mis à zéro. C'est-à-dire que...
Il faut faire d'autres publications.
Ouais. Et on a 3 ans. Trois ans minimum pour passer le grade. Et là aussi, ça dépend de CTS. Par exemple, moi, mon CTS, on nous demande 6 publications. Chez vous, c'est 8, non? Pour maître de conférence?
Pour maître de conf, c'est 10.
Ah, c'est 10 même.
Oui, oui.
Vous voyez bien, ça dépend vraiment de...
Quand on est avec un doctorat unique.
Voilà. Donc pour, et là aussi, ça dépend du type de thèse qu'on a.
Bien.
Parce que... Et après, maintenant, là également, c'est au bout de 3 ans d'ancienneté, maintenant, plus les mêmes dossiers... Également avec des publications, là aussi, on passe au grade de professeur titulaire.
Là encore, le nombre de publications
augmente. Là aussi, on met... Non. Là, la condition, ce qui est important, et ce qui est important à souligner au niveau du professeur titulaire, le nombre de publications diminue. Par exemple, quand on prend cette science naturelle agronomie, pour maître de conférence, on demande 6 publications, dont 2 indexées, parce qu'il y a la qualité aussi des publications. Mais pour passer professeur titulaire, de maître de conférence à professeur titulaire, il est exigé 4 publications, tout indexé, pas seulement au comité de lecture, mais la condition sine qua non, c'est qu'il faut encadrer un docteur. Il faut former un docteur jusqu'à la soutenance. Donc, si celui qui est professeur titulaire aujourd'hui, c'est qu'il a un ou des docteurs.
Des docteurs.
C'est la condition, c'est la principale condition. Maintenant, pour les maîtres de conférence également, compte tenu des problèmes d'encadrement que nous avons, le CAMES exige assez que pour un maître de conférence, en plus des publications et des autres dossiers, il faut encadrer au moins 3 masters. Ou bien, encadrer 3 masters sous la supervision d'un rang magistral, ou bien encadrer seul 3 maîtrises, parce qu'ils sont habilités quand même à encadrer des maîtrises. Maintenant, je vais juste faire une parenthèse.
Oui.
Parce que le plus souvent, les gens parlent de professeur agrégé.
Oui.
Ça aussi, parfois, il y a une confusion à ce niveau. En réalité, l'agrégation, ce n'est pas tous les CTS qui font l'agrégation. L'agrégation, c'est pour sciences économiques et gestion, sciences juridiques et politiques, les médecins, et que ce soit médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, c'est eux qui sont habilités. Et l'agrégation rentre en jeu à partir de, après maître assistant. C'est-à-dire que pour accéder à maître assistant, on suit la même voie. Maintenant, pour passer maître de conférence, les médecins, ceux que j'ai cités là,
oui,
eux, ils ont 2 choix. Il y a ce qu'on appelle la voie longue ou la voie courte.
Oui.
La voie longue, c'est passer comme nous. C'est-à-dire
que
tu construis un dossier avec des publications, etc., etc. Tu déposes un dossier au CAMES, on évalue. Ça, c'est la voie longue.
Oui.
Mais on peut faire aussi la voie courte. Et le plus souvent, c'est ce que les collègues font. C'est ça, l'agrégation. Et donc, ils font ce qu'on appelle l'agrégation. Et l'agrégation leur permet d'accéder au grade de maître de conférence agrégé. Et maintenant, une fois qu'ils sont maître de conférence agrégé, c'est ce qu'on appelle couramment professeur agrégé. Et après professeur agrégé, ils deviennent maintenant professeur titulaire en suivant la même voie que nous autres. C'est, la nuance,
fondamentalement, c'est quoi la différence?
Entre l'agrégation,
oui.
Non, fondamentalement,
c'est
la différence.
C'est lui qui est agrégé.
Non, en termes d'avantages, c'est les mêmes. Mais.
Les voies.
C'est surtout les voies. Et l'agrégation, bon, compte tenu du. Ils sont dans un domaine où on demande à tout le monde de faire l'agrégation. Toi qui as fait l'agrégation, l'autre qui n'a pas fait.
La personne va se sentir.
Parce que quand on dit quand même que toi tu as fait l'agrégation. Par rapport à certains, celui qui a suivi la voie longue, c'est comme s'il a suivi la voie la plus facile.
C'est paradoxal. Bien, professeur Abdou Serki, rapidement, on va finir ce point. Je ne sais pas si vous avez d'autres points à ajouter,
je pense que notamment
par rapport à la procédure
de passage. Je pense que c'est une sélection qui se fait, je dirais, sur dossier. Et la différence justement avec l'agrégation, c'est un concours qui est ouvert au CTS, qui est la cité, et qui permet aux maîtres assistants de ces CTS-là d'accéder au grade de maître de conférence. Donc, contrairement à ce qu'on pense, professeur agrégé, c'est inférieur à professeur tout court. Un professeur, quelqu'un qui est agrégé de droit, par exemple, aujourd'hui, nous en avons un avec nous, un qui est admis, c'est le professeur Naré Omaru. Mais il ne faut pas l'appeler professeur agrégé, parce que c'est comme si vous l'avez dévalorisé. Donc, contrairement à ce que l'opinion pense, le professeur agrégé, c'est un peu couramment les maîtres de conférences agrégés. Qu'on appelle professeur agrégé.
Douma, en fait, c'est vraiment une
c'est un concours, alors que pour les autres, c'est une sélection sur dossier. Bien. Ensuite, ce que je voudrais dire également, c'est que la sélection, elle est extrêmement dure au niveau du CAMES. C'est vrai qu'il y a des questions de fond, des exigences de fond, notamment les publications, les encadrements et autres, mais il y a aussi des problèmes de forme qui peuvent être à la base d'échecs de candidats. Donc, c'est extrêmement harassant et nous avons passé, rien que pour remplir le dossier, pratiquement des nuits blanches. Même si on a les conditions, on remplit les conditions de publication et d'encadrement, réunir les papiers, les mettre à la bonne place, faire la bonne présentation, ça, c'est extrêmement dur.
La question de forme, elle compte très...
Elle compte très bien dans l'évaluation, puisque chaque année, il y a des candidats qui sont refusés parce qu'il y a telle ou telle question de forme, telle ou telle exigence de forme qu'ils n'ont pas remplie.
Il y en a qui partent jusqu'à dire que même pour une question de signature...
Absolument, mais puisque le CAMES, il y a un guide d'évaluation des anciens chercheurs et chercheurs qui dit clairement, jusque dans les détails, voilà comment il faut faire. Bon, celui qui ne le fait pas, on vous dit la signature même, qui doit signer, sur quel papier. Mais si vous ne faites pas signer ce papier par la personne autorisée, mais ça, il ne faut vous en prendre qu'à vous-même.
Alors, je voudrais juste vous poser une question rapidement. On va passer à la dernière partie. Est-ce que le CAMES, qui on va dire donne ses grades, peut infliger une sanction à un gradé, le rétrograder par exemple pour une faute, je sais pas, lourde, pour une faute quelconque?
Oui,
c'est le cas ou pas?
Non. Le CAMES peut le faire. Hein. Le CAMES est doté d'un code d'éthique et de déontologie. Et il y a un comité d'éthique et de déontologie qui est mis en place. Et donc, par exemple, lorsqu'on se rend compte que, par exemple, un candidat a triché, par exemple, ça arrive couramment, hein, il y en a qui présentent des fausses thèses, des fausses publications. Si le CAMES constate que c'est le cas, le CAMES peut carrément annuler l'inscription du candidat. Tous les évaluateurs qui sont membres de CTS signent le code d'éthique et de déontologie. Parce qu'il faut que les choses soient faites dans pratiquement les règles de l'art, dans la transparence. Et tous les candidats également signent le code d'éthique et de déontologie par lequel ils attestent qu'ils sont prêts pratiquement à subir les rigueurs de la loi, comme on dit.
Et donc, cas de manquement.
En cas de manquement. Lorsque le CAMES constate, par exemple, que les publications, au fait, on a fait du plagiat au niveau des publications ou bien la thèse, etc., etc., là, c'est le CAMES peut sévir.
Mais comment? Est-ce que c'est le rétrograde est possible ou
non, c'est
pas
possible.
Bien.
C'est possible.
Dernière partie de cette émission, je le disais tout à l'heure en début que la 40e session donc, des CCI, les comités consultatifs interafricains chargés d'évaluer donc, les candidats aux différents grades du CAMES s'est tenu à Niamey au mois de juillet dernier. À l'issue de ces assises, les résultats globaux affichent environ 1500 admis sur les 1856 candidats inscrits à l'évaluation. Le Niger a engrangé un taux de réussite de 84,78%, soit 78 admis sur les 98 candidats. C'est des chiffres que nous tenons donc du pont focal du CAMES. Il y a eu entre autres 6 professeurs titulaires sur les 8 candidats, 9 maîtres de conférences sur les 10 candidats. Professeur Serki Abdo Moukaila, quelle appréciation faites-vous de ces résultats et cela est dû à quoi?
Bon, je pense que je l'avais dit lorsque je parlais des raisons pour lesquelles le combat avait été engagé pour le retour au CAMES, ça prouve, ces excellents résultats prouvent combien nos collègues, malgré les difficultés ambiantes, ne sont pas moins performants que les autres. c'est un taux de réussite vraiment appréciable. Et certainement que les gens sont en train de tirer les leçons pour que lors des prochaines sessions, nous fassions encore mieux. Parce que chaque fois qu'un dossier est refusé, je dirais, il y a les raisons. Hein, le CAMES donne les raisons. Ça permet aux candidats qui vont venir
de
prendre, de tirer les leçons hein, de, des échecs de leurs prédécesseurs pour que, pour un problème de forme ou de fond, leur dossier ne soit pas amené à être recalé.
Alors, professeur Ali Douma, en quoi ces résultats peuvent être un atout pour l'enseignement supérieur en ce qui concerne le cas du Niger?
Bon, c'est un atout. Bon, je vais d'abord préciser que par rapport au comité d'éthique et de déontologie,
oui.
C'est-à-dire le candidat, par exemple, qui est ajourné ou bien qui est déclaré irrécevable, c'est juste une précision que je vais apporter,
oui, oui.
Il y a des voies de recours. Par exemple, quand on pense que les raisons qu'on a données,
ne
sont pas... On peut faire recours et le plus souvent, il y a des candidats qui sont réhabilités.
Et avec, le recours est fait au niveau de ces CCI ou au niveau du CAMES où il y a une
institution
qui reçoit?
Là, on envoie le recours au niveau du CAMES qui le réintroduit au niveau du CETES. Et maintenant, le CETES examine. Si le candidat a raison, on l'inscrit avec étau rétroactif. Donc, par rapport aux avantages,
oui.
Mais vous venez de dire que nous avons 6 professeurs titulaires. Nous avons 8 maîtres de conférence et 1 maître de recherche. Donc, 8 maîtres de conférence, 1 maître de recherche, ça veut dire que c'est la capacité d'encadrement de l'université qui se trouve accrue.
Accrue.
Hein? Et également, on a quand même un certain nombre donc, de maîtres assistants. Rien que par rapport au jury du bac, les assistants ne sont pas habilités à diriger les présidences du jury. Or, il faut voir le nombre d'assistants qu'on vient d'inscrire, de maîtres assistants qu'on vient d'inscrire. Donc, ça veut dire que pour l'année prochaine, au fur et à mesure qu'on avance, on n'aura pas de problème de... En tout cas, les problèmes d'encadrement qu'on a connus, on commence vraiment à les résorber. Également, pour les maîtres de conférence, les maîtres de recherche et les professeurs titulaires, ça veut dire que la capacité d'encadrement de l'université, de nos universités en matière d'encadrement, c'est tout de thèse, ça veut dire que ça se trouve renforcé. C'est surtout important pour les universités de l'intérieur. Je précise que Maradi a restreint cette année 6 nouveaux maîtres de conférence, l'Université d'Indico d'Enclodo de Maradi, et Zender vient d'enregistrer également 2 nouveaux maîtres de conférence. Ah. Donc, ce qui, quand même, va contribuer à accroître davantage les capacités d'encadrement de ces universités.
Bien. Professeur Munkaila Abdou-Serki, quelles sont les difficultés qui entourent le processus de passage de grade? Vous êtes un expérimenté.
Le professeur Douma est expérimenté aussi.
En dehors...
Vous êtes
devant nous, tout frais, venu professeur titulaire récemment. Ça fait même pas un mois.
Je pense que les premières difficultés...
En dehors de la préparation, vous avez parlé.
C'est les conditions de publication. Il faut déjà savoir publier. Mais là, pour pouvoir publier, il faut écrire. Et c'est pas, on n'écrit pas n'importe quoi pour présenter ça comme étant de la publication. Je précise que les publications scientifiques, quel que soit le champ disciplinaire, c'est vraiment des écrits logiques qui doivent respecter un certain nombre d'exigences, qui sont soumis à des spécialistes, qui évaluent, qui rejettent. Ça arrive fréquemment que des textes soient rejetés. Qui passe vraiment tout un circuit d'évaluation et qui peut, à la fin, si c'est accepté maintenant, être publié. Ensuite, il faut avoir aussi la bonne information. Parfois, on a beau être ancien chercheur, mais parfois on ne cherche pas la bonne information. Parfois, on peut avoir une mauvaise même compréhension. Si vous voulez du guide, heureusement que l'université a mis en place une commission de vérification qui est chargé en amont avant la transmission au CAMES de vérifier les dossiers. Mais je pense que les premières difficultés, c'est pendant la période où on publie avec tout le stress, avec toutes les charges sociales que nous avons, qui ne sont pas faites forcément pour faciliter la concentration. Une publication scientifique, elle doit se faire vraiment dans la plus grande concentration.
Bien, pour terminer, quand même, je voudrais aborder une question relative au CAMES. Vous avez eu sans doute peut-être vent de l'ouvrage sorti en avril dernier au Bénin, et qui s'attaque au CAMES. Ce livre intitulé « Le CAMES, la nébuleuse qui entrave l'essor du Bénin et de l'Afrique ». Cet ouvrage est le fruit de la collaboration de deux professeurs de l'Université d'Abomey-Calavi. On peut lire entre autres à la page 9 de l'ouvrage, je cite « Le CAMES élève des barrières arbitraires artificielles pour empêcher la promotion des enseignants de rang magistral en Afrique francophone pendant qu'en France, même le maître assistant est supprimé depuis belle lurette et qu'une bonne thèse de doctorat unique confère presque automatiquement le rang de maître de conférence. Au CAMES, on n'en est même pas au maître assistant. » Fin de citation. L'on peut lire aussi, je cite, « Le CAMES est montré et s'illustre comme une confusion parfaite en ce qui concerne la signification ou le contenu à donner au métier d'enseignant. Avec celui de chercheur se fourvoyant piteusement dans le très cénacle concept d'enseignant-chercheur. » Fin de citation. Voilà brièvement quelques extraits. Vous avez eu sans doute vent de cet ouvrage. Avez-vous à dire, qu'avez-vous à dire sur ces affirmations concernant le CAMES, professeur Ali Douma?
En fait, nous sommes des êtres humains. Hein. Et donc, les gens sont libres de leur jugement. Et professeur Sati n'a pas voulu parler tout de suite. C'est les mêmes raisons, au fait, qui ont suscité un moment le retrait du Niger. Parce qu'on pense que le CAMES est en train de bloquer les Nigériens, on n'avance pas, etc., etc. Bon, et celui qui va et qui échoue, bon, il s'en prend tout de suite au CAMES. Mais ce que je veux préciser, vraiment, le CAMES est quand même l'instance qui évalue de façon transparente vraiment les anciens chercheurs à ce stade-là. Et comme je le disais tout de suite, même quand, par exemple, on est ajourné ou bien on est déclaré irrécevable, il y a des possibilités de recours. Il y a des voies de recours. Ça veut dire qu'on vous garantit la transparence. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez faire recours. On réexamine votre dossier. Si vous avez raison, on vous rétablit dans vos droits. Donc, je ne vois pas. Maintenant, quand on parle de la France, c'est vrai, quand on est recruté en France, on est maître de conférence. Mais on n'est pas habilité à diriger des recherches. Il faut faire l'HDR. Mm. Et c'est après qu'on passe professeur des universités. Bon, maintenant, c'est pas parce qu'on fait ça en France. Dans la mesure où, chez nous, les gens sont en train quand même d'évoluer quand même en grade. Bon, moi, pour l'instant, je pense que...
il n'y a pas lieu de...
Non, il n'y a pas lieu de... Nous, on continue à faire confiance à notre institution d'évaluation, c'est-à-dire le CAMES.
Bien. Moukel Abdo Serki.
Ben, merci. Moi, je pense que c'est tout à fait normal. Hein. Le CAMES a des pourfendeurs un peu partout. Il y en a même chez nous, ici à l'Université Abdou Mouni de Niamey. Et il y a des pourfendeurs du CAMES.
Mais pour vous, il n'y a aucune raison.
Pour moi, la comparaison ne tient pas la route, puisque quel que soit un pays peut avoir tout à fait son système. Mais nous avons, pendant 23 ans, expérimenté le système interne, qui était à la limite devenu un moment, je le dis haut et fort, c'était presque devenu à un moment une mafia, où on pouvait faire échouer subjectivement des gens, où des gens se réglaient des comptes, où chez nous, en tout cas, nous qui venons de si loin, je pense que c'est extrêmement important que le CAMES, malgré les quelques imperfections, le CAMES vaut nettement mieux que ce système. J'ai eu vent, j'ai parcouru aussi des extraits hein, de ce livre. Mais il y a également un livre qui vient de sortir. Le CAMES, 50 ans de service, 50 ans au service de l'enseignement supérieur et de la recherche en Afrique, qui montre tous les acquis. Donc, lorsqu'il y a des pourfendeurs, peut-être même, il y en a quelques rares, même chez nous ici, des gens qui n'ont même pas été candidats une fois, pour une raison ou pour une autre, pour qui ça n'a pas marché, et qui s'en prennent au CAMES, moi je ne suis pas d'accord. C'est vraiment la pure subjectivité, et je pense que nous devons absolument préserver cet outil d'évaluation et qu'est le CAMES.
Fin du forum ce soir sur le passage en grade des enseignants-chercheurs et des chercheurs à travers l'évaluation de leurs compétences pédagogiques et scientifiques par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, le CAMES. Nos invités, professeur Ali Douma, enseignant-chercheur à l'Université Abdou Moumouni de Niamey et point focal du CAMES au Niger, et professeur Moukel Abdo Serki, enseignant-chercheur aussi à l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Il fait partie des candidats admis au grade de professeur titulaire lors de l'évaluation du CAMES à Niamey en juillet dernier. Le CAMES, nous l'avons vu combien cette institution est très importante pour l'enseignement supérieur dans un certain nombre de pays africains.
Merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir.